VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par le triple attentat suicide qui a frappé mardi soir l'aéroport international Atatürk d'Istanbul en Turquie. Le tout dernier bilan officiel, 41 morts, dont 13 étrangers et 239 blessés. Soit l'attaque la plus meurtrière dans la grande métropole turque, déjà frappée par 3 attentats cette année. Le gouvernement turc attribue l'attaque d'hier soir au groupe État islamique. Plus de détails sur l'attaque avec Jean-Roger Bion.
Selon les autorités, des explosions ont d'abord eu lieu à l'entrée du terminal des vols internationaux vers 22h locales, 19h GMT. 3 assaillants ont mitraillé des passagers ainsi que des policiers en faction. Une fusillade a éclaté, puis les kamikazes se sont fait sauter. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme dans un communiqué. Cette attaque qui s'est déroulée pendant le mois du Ramadan montre que le terrorisme frappe sans considération de foi ni de valeur, a dit le président turc.
Quelles sont les réactions dans le monde face à l'attaque ?
Le président français François Hollande a condamné fermement un acte abominable tout en appelant à un renforcement de la coopération internationale en matière de lutte anti-terrorisme. Ici à Washington, un porte-parole de la Maison-Blanche a condamné ces attaques abominables tout en promettant le soutien des États-Unis à Ankara. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné l'attaque terroriste et a lui aussi réclamé une coopération internationale accrue.
Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi condamné l'attaque et exprimé ses condoléances au peuple turc. M. Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus au téléphone aujourd'hui pour la première fois depuis le début de la crise diplomatique entre leurs deux pays en novembre dernier. Ils ont convenu de se rencontrer à une date ultérieure. Ankara et Moscou se sont engagés à relancer leurs relations bilatérales, a souligné la présidence turque dans un communiqué.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Afrique maintenant, RDC, l'opposition congolaise dit non à l'appel du président Joseph Kabila à participer à l'enrôlement. La coalition des Congolais pour la transition, CCT, dénonce une tentative de distraction du peuple congolais et de la communauté internationale quant à la date constitutionnelle de la présidentielle. On écoute Emery Damien Kalouira, président de la CCT.
Monsieur Kabila est en train de tout faire pour éloigner considérablement l'élection présidentielle et commencer tout simplement par les élections locales qui vont lui permettre de franchir le cap de décembre 2016 afin d'amender la constitution et rester au pouvoir autant qu'il le voudra en copiant le modèle des autres dictateurs sanguinaires qui s'accrochent au pouvoir. Nous appelons les Congolais à la vigilance. Donc, ça n'était que des faits d'annonce qui ne riment pas avec la réalité. Les Congolais ne veulent plus d'un dialogue qui permettra à M. Kabila de rester au pouvoir. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une transition sans M. Kabila en vertu de l'article 64 qui donne aux Congolais les prérogatives de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui s'accrocherait au pouvoir en violation de la loi fondamentale. Une transition du salut public qui va permettre aux Congolais de restaurer leur constitution que M. Kabila est en train de vouloir jeter à la poubelle.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Les États-Unis et la France ont soutenu l'ex-président tchadien Hissène Habré tout au long de son régime. C'est ce qui ressort de 2 rapports publiés mardi par l'ONG Human Rights Watch. Ces documents détaillent l'appui de Paris et Washington à l'ex-président tchadien, notamment dans sa prise du pouvoir et sa guerre contre l'invasion libyenne. Pour en savoir plus, Timothée Donangmaï a joint à Londres Reed Brody, porte-parole de Human Rights Watch.
La France a soutenu Hissène Habré surtout militairement. Il y a 2 opérations militaires, Manta et Épervier, qui avaient pour objet de renforcer Hissène Habré et de bouter dehors la Libye de Muammar Kadhafi, qui occupait le nord du Tchad. Le soutien de la France et des États-Unis à Hissène Habré est largement dû à cette idée de utiliser Isinabri comme bulwark contre Muammar Kadhafi.
En quoi a consisté l'aide américaine à Isinabri?
Bon, les Américains étaient impliqués avant la France. C'est le gouvernement de Ronald Reagan qui a voulu que Isinabri prenne le pouvoir. Et la première opération clandestine de l'administration Reagan, c'était de porter Isinabri au pouvoir pour donner un coup de nez à Kadhafi. Et les États-Unis ont travaillé étroitement avec l'appareil sécuritaire de Isinabri. Il y a beaucoup d'agents de la fameuse DDS, la police politique d'Isinabri, qui était formée aux États-Unis. Il y avait même un fonctionnaire de l'ambassade américaine qui était considéré par la DDS comme la liaison à cette police brutale. On sait aussi que les États-Unis avaient utilisé les soldats libyens capturés par Isinabri. La CIA a formé une petite armée contre Kadhafi dans une base clandestine au Tchad que même les Français ignoraient et qui était destinée à combattre Kadhafi. Mais finalement, Isinabri, il a été conversé avant que ses soldats entrent en action.
Isinabri a été condamné à Dakar. Que disent Washington et Paris par rapport à leur aide passée à l'ancien président tchadien?
C'est intéressant. Les États-Unis, il faut dire que l'administration Obama a été un des grands soutiens de la lutte des victimes. Les États-Unis ont fait pression et sur le Sénégal et sur le Tchad pour avancer. Le président Obama a même félicité Macky Sall pour l'initiative de juger Isinabri. Et au moment de la condamnation d'Isinabri, le secrétaire John Kerry avait dit que cette condamnation présentait une occasion pour les États-Unis d'examiner, de tirer des leçons sur la connexion, comme il a dit, des États-Unis avec les événements du Tchad d'Isinabri. Bon, la France a aussi soutenu les Chambres africaines extraordinaires, mais beaucoup plus modestement. Et la France n'a jamais parlé publiquement de son soutien passé à Isinabri.
Reed Brody, porte-parole de Human Rights Watch, joint à Londres.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, des Togolais employés comme domestiques dans les pays du Golfe arabo-persique exposent l'horreur et le calvaire qu'elles subissent au Koweït, au Liban, en Arabie Saoudite, en Iran et même en Irak. Elles ont fait de troublantes révélations au mouvement Martin Luther King au Togo sur des traitements inhumains, des viols, des retenues de salaire, des sévices corporels dont elles ont été victimes. On écoute le cri de cœur du pasteur Edo Tomi, président du mouvement Martin Luther King à Lomé.
La plupart de ces femmes-là quittent ici illégalement et illicitement par les réseaux qui opèrent dans la clandestinité. Et là-bas, il n'y a pas de protection juridique. Elles travaillent plus de 14 heures par jour, ce qui n'est pas conforme au statut de l'Organisation internationale du travail. Elles sont violées, elles sont harcelées. Il y a la retenue de leur salaire. Elles travaillent pendant 2-3 ans. Finalement, elles se retrouvent nulles. Au retour même, certaines femmes sont déjà arrivées au Togo ici sans même avoir un rond. Donc c'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation humaine sous forme moderne. Mais je vous assure que les pays du Golfe sont des pays à risque.
Le pasteur Edo Tomi à Lomé au Togo. Corne de l'Afrique, l'Érythrée dit craindre une reprise à grande envergure de la guerre avec l'Éthiopie. C'est ce qu'a déclaré hier son ambassadrice à Paris. Les détails avec Eric Manira Kiza.
Anna Simon a hier déclaré que l'Éthiopie a déjà commencé à attaquer. S'exprimant dans une conférence de presse, elle a ajouté que la guerre peut être relancée n'importe quand à grande envergure. Le 13 juin, les frères ennemis de la Corne et de l'Afrique se sont mutuellement accusés d'avoir déclenché des hostilités à leurs frontières. Même le bilan des combats a été très disputé. Puis le régime éthiopien a mis en garde contre le risque de guerre totale. À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit voter dans quelques jours sur la situation en Érythrée après un rapport accablant. La commission d'enquête a même recommandé une saisine de la Cour pénale internationale. Pour Anna Simon, ce rapport qui accuse Asmara de tous les crimes pourrait servir les intérêts éthiopiens et ses alliés. Selon elle, on diabolise un pays et après on l'attaque, comme ce fut le cas en Irak et en Libye.
En Algérie, les services de sécurité disent avoir déjoué une tentative d'attentat par un groupe armé islamique dans un centre commercial à Sétif. C'est ce que rapporte aujourd'hui le quotidien gouvernemental El Massa. Les assaillants étaient en lien avec le groupe État islamique en Libye, selon le journal. Et pour terminer, l'Euro 2016, La compétition reprend demain avec les quarts de finale. Il y aura d'abord la Pologne contre le Portugal en ouverture du bal. Vendredi, ce sera le tour de la Belgique contre le pays de Galles. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.